Donc, c'est très important. Parce que c'est très important, étant donné que le fait, à partir de l'État, cette distinction a été mise entre parenthèses, et c'est les sensibles communs qui sont devenus l'aspect premier par lequel l'intelligence est le réel. Donc, l'aspect de l'objectivité est immédiatement modifié à partir de là. Alors ça, c'est un très gros problème, un problème très très important, difficile, parce que c'est évident que c'est pas si simple que ça. Il faut bien comprendre que le jugement d'existence implique le point de vue des sensibles propres. Et si on coupe le point de vue des sensibles propres, le jugement d'existence est modifié et il devient alors ce que Occam dit, il y a. Et c'est le positivisme qui s'introduit dans la philosophie. Oui. C'est quand même extraordinairement important, étant donné, je crois, que la maladie la plus profonde de notre monde d'aujourd'hui, c'est le positivisme, sous toutes ses formes. Ça, je crois vraiment que c'est ça qui est la maladie la plus fondamentale. Alors, c'est important de voir à quel moment le positivisme pénètre et comment, de fait, il s'est, au cours des temps, transformé. Alors, le positivisme consiste, n'est-ce pas, je prends le positivisme le plus élémentaire, tel que vous regarderez qu'est-ce que c'est que être positiviste, l'esprit positiviste. Regardez dans Auguste Comte, il dit ça avec une naïveté prodigieuse et merveilleuse. Alors, parce qu'il dit ça avec une naïveté prodigieuse et merveilleuse, il faut tout le temps revenir à Auguste Comte. N'est-ce pas ? Alors, Auguste Comte, et ça reste vrai ce qu'il dit du reste. Auguste Comte dit, l'esprit positiviste, c'est celui qui ne recherche plus que les lois sans chercher sans chercher la finalité. Et ça se traduit d'abord comme cela, c'est-à-dire on ne cherche plus que les lois, donc plus que le conditionnement des réalités. Et on essaie de chercher les lois qui donnent le conditionnement de ces réalités. Et on ne cherche plus la finalité. Alors, toutes les conséquences que ça peut avoir. Hein. Vous voyez que allier un esprit positiviste et la foi. Et vous voyez ce que ça fait au point de vue théologique. Parce que c'est ça le problème, hein. Nous, en tant que chrétiens, si on essaie de cultiver notre intelligence, c'est pour essayer de comprendre comment notre intelligence peut être mise au service de la foi. Notre intelligence est toujours mise au service de la foi. Parce que vous ne pouvez pas faire un acte de foi sans que votre intelligence soit présente. Alors, si votre intelligence est faussée, votre intelligence deviendra un poids pour l'adhésion de foi. Et petit à petit, ça freine. Et donc ça empêche l'adhésion de foi d'avoir toute sa plénitude. Alors évidemment, le Saint-Esprit peut faire des suppléances. Hein. Le Saint-Esprit peut faire des suppléances, peut faire qu'un positiviste soit un mystique. Ça peut se faire, ça peut arriver. C'est assez curieux comme phénomène. Mais je crois qu'à la fin de sa vie, il arrivera à faire la petite distinction en disant, c'est très curieux du côté de ma foi. Je pénètre plus avant, puis du côté de l'intelligence, il reconnaîtra qu'il est paralysé. Vous voyez ce que Rostand, sans être un mystique, avait quand même un certain sens des choses profondes, dit à la fin de sa vie. Il le disait à un de ses amis qui me l'a répété. Je crois que c'est le positivisme de mes parents et de mes grands-parents qui m'empêche de pouvoir adhérer à l'existence. Je crois qu'en disant ça, il a déjà le désir d'adhérer à l'existence de Dieu, et au fond, il y adhère. Mais il sent qu'à la fin de sa vie, le positivisme, le positivisme de ses ancêtres, de ses pères et de ses grands-pères, n'est-ce pas, le positivisme de cette époque-là, qui est un positivisme très très fort, il n'y a que la science, et la science seule nous donne la vérité. Et la science, il faut comprendre ce que c'est la science positiviste, c'est-à-dire la science des faits. Il y a des faits. Et on ne regarde que cela. Et on regarde les connexions des faits. Comment un fait entraîne un autre. Comment un fait présuppose. L'existence d'un fait présuppose l'existence d'un autre fait. Donc, le positivisme est sûrement, ça je crois, une très belle. Ça n'a pas été fait, je crois. De façon vraiment critique. La, la critique de l'esprit positiviste. On a essayé de comprendre comment dans un système comme dans Freud, il y a du positivisme, comme dans Piaget, il y a du positivisme, ce qui est une thèse qui a été faite ici, comment dans la philosophie de Piaget, il y avait un positivisme, et c'est ça qui a arrêté et qui même empêchait Piaget d'aller plus loin. C'est ça qui a empêché Freud de bien comprendre. On comprend très bien, le positivisme arrête. Il arrête même la véritable science. C'est quelque chose qui empêche la véritable science d'aller jusqu'au bout. Alors, le positivisme est quand même quelque chose de très très fondamental en nous. Ça, je crois qu'il faut essayer de le saisir, il faut le détecter en nous. Examen de conscience philosophique. Hein. Détecter en nous l'esprit positiviste qui est en nous, que nous avons respiré dans notre jeunesse actuellement et que nous continuons de respirer sans nous apercevoir que c'est du positivisme. Parce qu'on est dedans. Alors on ne s'en aperçoit pas, il faut en sortir pour s'en apercevoir. Alors je crois, personnellement, que c'est proprement à partir de ce changement du jugement d'existence en le datour de Occam qu'on entre dans l'esprit positiviste. Je l'explique en deux mots, puis alors je reviendrai après aux sensibles propres et sensibles communs. Parce que qu'on ait la distinction des sensibles propres et des sensibles communs, si on ne voit pas les conséquences, ça ne sert à rien. Je suis tout à fait d'accord. Une distinction sans voir toutes les conséquences, on dit ça ne sert à rien. Et c'est très vrai, dira M. Bien. Mais c'est que c'est très important, parce que ça ligote l'intelligence, ça l'empêche d'aller plus loin. Alors, je prends tout simplement cette affirmation. Il me semble de bene, c'est un petit peu extrinsèque au cours de fil de la logique, mais la logique est une bonne occasion de faire de la philosophie. Elle doit nous aider à faire un peu de critique, elle doit nous aider à faire un peu de philosophie, de la logique, au fond. C'est ça, si on l'a fait avec intelligence. Comprendre la logique, il faut être philosophe. Autrement, ça ne sert à rien. Je vous donnerai les règles du syllogisme. En 3 heures, je peux vous donner tout ça. Hein. Lisez la logique de Port-Royal, vous en aurez partout la tête, et vous trouverez que c'est magnifique. Bon. Ceci est jugement d'existence. Votre jugement d'existence, qui est la racine de toute la philosophie réaliste. Toujours ça. On revient à ça. Ce jugement d'existence est présent dans toutes les expériences. Expérience du travail, expérience de l'amitié, expérience, toutes les expériences. Il y a le jugement d'existence, ceci est. Alors, vous pouvez déterrer ce jugement d'existence et le thématiser et le regarder pour lui-même. Au-delà de toutes les expériences. Je regarde ce jugement d'existence. Ce jugement d'existence, comprenons bien, c'est toute l'insistance que nous mettons sur « est », ceci est. Et en disant cela, j'atteins donc l'acte d'être. L'existence, c'est-à-dire l'existence de ceci. Peu importe ce que c'est ceci, ça me vient égal, que ce soit une table, que ce soit Pierre, Jacques, Jean, que ce soit la vache, ceci. L'immense avantage du ceci est l'acte d'être. Ceci existe. Et parce qu'il existe, il est autre que moi. Parce que si le ceci était simplement une idée, je peux l'apporter en moi. Tandis que quand je dis est, ah, ça existe. C'est quelque chose que, de fait, je ne pourrai jamais nier. Une réalité qui existe est une réalité qui s'impose à moi. Et qui s'impose à moi de la manière la plus forte qui soit. Je suis obligé de la reconnaître. Si je ne la reconnais pas, je fais une malhonnêteté à mon esprit. Je suis malhonnête dans ma vie intellectuelle. Je dis ceci est, et bien je dis, ah ça n'existe pas, je ne veux pas le regarder. Ça existe. Ayez le respect de l'autre. Hein, vous comprenez bien. Le respect de l'autre, le respect le plus élémentaire, ceci est. Oui. Peu importe ce qu'il est, je le respecte, il existe, il est autre que moi. Donc je mets l'accent, et je peux dans le jugement d'existence, mettre l'accent sur l'acte d'être qui existe dans cette réalité, dans telle ou telle réalité. Et cet acte d'être, c'est justement ce qui permet de comprendre que cette réalité est autre que moi, qu'elle s'impose à moi, que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Comme quand vous dites « je suis hein. ». Je suis, ce n'est pas votre cogito. ce n'est pas votre pensée. Je suis, ce n'est pas votre amour. Vous n'avez pas le culot de dire, mon amour, c'est mon être. Pensez un petit peu à la différence qu'il y a. Hein. Je voudrais que mon amour soit mon être, mais mon amour n'est pas mon être. Mon amour, c'est la fine pointe de mon être. Ah, ça je veux bien, oui, c'est là où je vis parfaitement. Ah oui, c'est là où je vis parfaitement. C'est là où, d'une certaine manière, je suis parfaitement. C'est très vrai. Mais il y a des étages inférieurs. La preuve, c'est qu'il faut redormir. Et donc, il faudra arrêter. Il faudra quand même arrêter. Et puis, il faudra manger. Il y a d'autres occupations. Il faudra travailler. Donc, pratiquement, vous n'identifiez pas votre être et votre amour. Et quand vous dites « je suis », vous exprimez quelque chose de fondamental en vous qui s'impose à vous. Vous pouvez vous modifier dans vos orientations, dans votre travail, dans le choix des instruments, mais vous ne pouvez pas vous modifier dans votre être. Très embêtant. Je voudrais bien être comme le voisin. Être comme le voisin. Vous voyez ? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. C'est quelque chose qui s'impose à moi. L'être, c'est quelque chose qui s'impose à moi. C'est l'autre. Même en moi-même, c'est l'autre. Hein ? Très curieux, il ne faut pas trop insister là-dessus parce que ça vous ferait une dichotomie très fondamentale et alors très dangereuse, n'est-ce pas ? Vous direz d'un côté c'est mon existence, de l'autre côté c'est ma vie. Alors ça ne va pas non plus parce que votre existence et votre vie, les deux se tiennent, mais il y a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire. C'est même très important d'arriver à distinguer l'être et la vie. C'est très élémentaire, mais c'est très important. Il y a toujours à maintenir cette distinction entre les deux. Ça, ce serait autre chose. Si on voyait le non-distinction entre l'être et la vie, alors à ce moment-là, on pénètre dans tout l'idéalisme. Parce que je crois que fondamentalement, l'idéalisme, c'est la confusion de l'être et de la vie. Parce qu'alors, on comprend du reste. Parce que vous ne respectez pas ce qu'il y a de fondamentalement autre en vous. Vous ne regardez que ce qui est immanent en vous. Ce qui se modifie en vous. Et donc, vous partez de vous, si vous confondez l'être et la vie. Tandis que si vous respectez la distinction entre l'être et la vie, vous respectez qu'il y a quelque chose d'autre qui s'impose, que vous ne pouvez pas changer. Et c'est ça le réalisme, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'impose, que vous ne pouvez pas changer. Et cet autre, c'est justement, cette réalité existe. Bon, ceci est, qu'est-ce qui se passe dans la philosophie d'Occam, hein? C'est dit explicitement, là, croyez-moi, j'ai relu et lu ce texte très important, et qu'on ne voit pas beaucoup, parce que c'est dans la logique d'Occam, et très peu de gens lisent la logique d'Occam. Demandez même à vos professeurs, c'est très très peu qui ont lu la logique d'Occam. Et c'est pourtant bien dommage, parce que Occam dit au début de sa logique, j'écris ça pour mes chers collègues et mes chers frères théologiens, qui disent des quantités de bêtises parce qu'ils ont oublié la logique. C'est très très joli. Ils disent des quantités de bêtises parce qu'ils ont oublié la logique. Tous les temps, on voit très bien. Théologien, ça fait partie de la sainte rabiesse des théologiens entre eux. Alors, vous avez donc, dans Occam, un moment très précis. Occam se dit, quelle est l'évidence première ? Vous voyez, Descartes dira, quelle est la certitude première ? C'est un petit parabellisme. Évidemment, Occam, 14e siècle, hein, 15 ans après Saint-Thomas, ou 30 ans après Saint-Thomas. Et puis Descartes un peu plus loin. Mais Descartes dépend de Occam. Hein. C'est pas Occam, c'est autre chose, c'est très différent. Occam, quelle est l'évidence première ? Où y a-t-il la plus grande évidence ? Descartes dira où il n'y a plus la plus grande certitude. Donc on change de cran. Je suis, l'interrogation, où est la plus grande évidence ? La certitude. Où y a-t-il la plus grande évidence ? La plus grande évidence, c'est dans intelligo. C'est pas le cogito, c'est intelligo. Je connais. Je pense. Et j'aime Socrate. Il est franciscain. Alors il ajoute ça dessus. C'est normal. Je ne peux pas penser sans qu'il y ait l'amour. Et alors il dit, j'aime Socrate. Voilà l'évidence. C'est de découvrir en moi quelque chose d'intelligent. Et de découvrir en moi ce qui est purement intelligible. Qu'est-ce qui est purement intelligible ? C'est là où la plus grande évidence existe. La plus grande évidence existe donc dans cet intelligible premier, j'interroge. Et j'aime Socrate. Une fois qu'il a découvert que c'est là le premier moment de l'évidence, le premier moment où mon intelligence est parfaitement lucide. J'intègre. Il ne dit pas quoi, hein. Il vaut mieux. C'est uniquement l'intelligence. On se coupe de l'objet, c'est ça qui est très intéressant. Donc vous êtes dans une attitude réflexive. Et vous vous coupez de l'objet, parce que si vous dites j'intellige un chat, le chat n'est pas parfaitement intelligible. Il faudra le couper en petits morceaux pour le connaître, et même une fois que vous le coupez en petits morceaux, vous ne le connaîtrez pas, n'est-ce pas? Parce que vous dites je l'ai tué, je ne l'ai pas connu. Alors vous le recomposerez, vous verrez le chat vivant. Parce que c'est pour connaître, il faut analyser, faire la synthèse, on sait très bien. Et donc, si je dis je connais le chat, mais le chat est chat. Il y a quelque chose dans le chat qui n'est pas totalement intelligible. Tandis que quand je dis j'intelligible, j'intellige, je pense, j'ai comme une espèce de très curieux, comme c'est, faites l'expérience vous-même, en recomposant ce que Occam dit. Soyez un moment occamien. Ce n'est pas, mais soyez un moment occamien. J'intellige, c'est très lumineux, c'est merveilleux, c'est une lumière étonnante. Alors, dès que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, c'est moins intelligible. Tandis que quand je pense, c'est une intelligibilité parfaite. Remarquez qu'il y a un petit phénomène de séduction, il y a un petit phénomène imaginatif. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez jamais penser sans penser à quelqu'un. Ou bien alors vous pensez en vous regardant vous-même. Alors, vous pensez en vous regardant. Et faire de l'intelligence, d'en faire un absolu, c'est au fond... Imaginez qu'on est Dieu. Il y a Dieu qui est absolument identique, sujet et objet. Il n'y a qu'en Dieu, où il y a identité absolue entre le sujet et l'objet. Donc il y a Dieu qui peut dire j'intellige. Il y a Dieu. Comme il est seul pour dire je suis. Nous ne pouvons pas, nous. C'est très curieux, c'est un phénomène de séduction très étonnant. C'est regarder à la glace. Et regardez la glace en se coupant, parce que si je dis j'intellige, le je, vous comprenez bien, le je, il n'est pas tout à fait intelligible, il n'est pas parfaitement lucide. Il est donc quelque chose qui a une certaine opacité. Or, je veux découvrir la pure évidence, la première évidence, c'est une espèce d'intuition. Une espèce d'intuition. Une intuition tout à fait première. L'intuition tout à fait première, hein, c'est peut-être l'intuition claire. On va mettre ça comme ça. Et il ne le dit pas, Non, mettons le dit entre parenthèses. Mais au fond, c'est ça. C'est une intuition première de j'intellige. Et j'aime Socrate. Alors il dit j'aime Socrate. Quand il s'agit d'amour, il dit Socrate. Mais pas quand il dit j'intellige. Alors il se pose la question, comment, à partir de cette évidence, rejoindre la réalité? Et la réalité existante. La réalité qui n'est pas mon intelligo. Voilà la question du jugement d'existence. Oui. Cogito ergo sum. Descartes aura au moins le privilège de voir que dans le cogito, il y a ergo sum. Tandis que Octave dit j'intellige, comment rejoindre la réalité existante? L'existence, c'est moi aussi bien que la pierre, ça n'a pas d'importance. Hein. Comment rejoindre cette réalité existante? Il dit ah, c'est l'intelligence plus les sensations. J'ajoute à l'intelligence les sensations pour rejoindre le réel. Pour rejoindre le réel existant, la réalité existante. Et alors, il ajoute, et c'est ça qui est très important, c'est là où on y arrive, il ajoute les sensations qui s'ajoutent à l'intelligence, saisissent de la réalité rien de plus que l'intelligence. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute. J'intellige plus mes sensations. Et mes sensations détectent alors qu'il existe en effet une réalité que je peux toucher, que je peux palper, et ainsi de suite. Il existe une réalité qui est en devenir, qui est en mouvement. Cette réalité que je touche, que je vois, cette réalité est extérieure à moi. C'est la sensation. Elle est extérieure, elle est autre que moi. Et alors à ce moment-là, il nous dit cette chose très intéressante, il nous dit c'est à ce moment-là que l'autre nous est donné d'atout. Le jugement d'existence, c'est constater le fait qu'il y a une réalité autre que nous. Là, vous voyez la transformation, le datour. Alors, je me demande si le Esgibt allemand de Heidegger, qui dépend de la chose, le jugement d'existence se donne de cette manière. Il nous est donné. Quelque chose nous est donné. Une réalité nous est donnée. Dire une réalité nous est donnée et dire ceci existe, c'est pas du tout la même chose. Vous allez saisir maintenant, j'espère. C'est un peu subtil, hein? Comme toujours, quand vous êtes à l'origine d'une erreur, c'est subtil. En gros, on ne tomberait pas dans l'erreur. Donc c'est un peu subtil. Mais c'est intéressant de bien voir ce moment. Alors, le jugement d'existence se traduit donc d'un tour. Il est donné. Il est donné à un autre. Et je ne dis pas ceci est. Et Octave ajoute bien que les sensations s'ajoutent à l'intelligence. Et l'intelligence ne saisit rien de plus que les sensations. Donc, je constate qu'il existe une réalité autre que moi, mais je ne connais pas son existence. Les sens ne peuvent pas connaître l'être de la réalité. Ils ne peuvent pas connaître l'acte d'être. Les sens connaissent les qualités. C'est la seule chose que les sens connaissent. Ils connaissent les qualités, ils connaissent les diverses sensations. Ils connaissent les sensibles communs et les sensibles propres. Voilà ce que la sensation connaît. Mais la sensation n'atteint pas le point de vue d'existence, l'acte d'être. Donc, si la sensation s'ajoute à l'intelligo, l'intelligence connaît, elle, ce qu'il y a d'éternel dans la réalité. Ce qu'il y a d'éternel dans la réalité, c'est l'essence. Voilà ce que connaît l'intelligence. Elle connaît les intelligibles purs. L'intelligence, voilà ce qu'elle attend. Elle atteint immédiatement ça. Elle atteint les idées. On sait bien, on voit très bien ce domaine de l'intelligence. Et alors, s'ajoute à cet intelligo les sensations qui me font donner, il existe, il y a une réalité. Mais cette réalité, je ne la connais qu'en tant qu'elle s'oppose à moi, en tant que je la sens, mais mon intelligence ne la saisit pas dans son acte d'être. Et toute la différence entre le jugement d'existence qui dit ceci est et l'affirmation il y a un être. Quand vous dites il y a une réalité. Vous vous apercevez d'une réalité qui s'oppose à vous, que vous connaissez par la sensation, mais que vous n'affirmez pas qu'elle existe. Vous l'ignorez. Voyez la naissance du nous-même de Kant. C'est présent, ça. Il y a une réalité. Mais cette réalité, dans son être, je la connais pas. La sensation seule me met en présence de cette réalité. Et c'est pour ça que vous aboutissez, et on comprend très bien, donc Kant à Kant, il y a un parallélisme, il y a quelque chose qui nous fait comprendre comment le jugement d'existence est perdu, et il est changé, c'est l'advas du jugement d'existence, il est changé, il est modifié par cette affirmation, il y a une réalité. Je passe maintenant à Descartes. Il ne dit pas plus. Octave ne nous dit pas si les sensibles propres disparaissent ou pas. C'est Descartes qui, lui, ne l'oublions pas, séduit par le point de vue mathématique. Occam, lui, il est séduit par la logique. Il est séduit par la logique. Être séduit par la logique, c'est la maladie d'Occam. Puisque pratiquement, il remplace la métaphysique par la logique. Nous reviendrons à cette théorie d'Occam à propos de l'universel. C'est important de saisir ça. Descartes, lui, regarde la certitude. Et il est séduit par les mathématiques. Vous savez bien la vieille parole d'Aristote, les connaissances mathématiques, c'est là où nous avons la plus grande certitude. Il ne dit pas la plus grande évidence, mais la plus grande certitude. Ce sont les connaissances mathématiques qui sont d'une certaine manière les plus connaturelles à notre manière de connaître. Et donc c'est là où il y a la plus grande certitude. Et c'est vrai. les connaissances mathématiques ont une espèce de lucidité très particulière qui nous donne une très grande certitude. Et donc, dans la mesure où je regarde en premier lieu la certitude, on comprend très bien la séduction très grande des connaissances mathématiques à cause même de cette certitude. Donc Descartes parle de la certitude, il cherche la certitude. Descartes, il a la panique. C'est vrai, c'est le premier qui a la panique, c'est le premier qui a l'angoisse en disant « je peux me tromper ». Alors il a une panique énorme. Alors comme il a une panique énorme, il se renferme sur lui-même. C'est le phénomène de la forteresse. On lève les pompes. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cœur de la forteresse? C'est la réflexion sur votre cogito. Votre cogito, personne ne peut venir l'attaquer. C'est très différent comme il y a une démarche. Et il y a quelque chose de parallèle. Il y a quelque chose de parallèle. Le cogito. Le cogito, c'est le lieu de la plus grande certitude. Quand vous dites je pense, personne ne peut vous dire que vous ne pensez pas. Vous avez une certitude de penser. Il ne faut pas vous dire quand vous regardez, quand je vous regarde, ah vous ne pensez pas. Non, si vous dites je pense, j'aimerais bien savoir quoi. J'aimerais bien savoir quoi, c'est sans doute génial, dites-le. N'est-ce pas? Je pense. Ne vous dites pas que c'est génial, simplement je pense. Certitude du fait de penser. La certitude du fait. Moi, c'est très fort ça, le cogito, la certitude du fait de penser. Et je cogite, je dis qu'il y a là quelque chose qui est premier, la certitude absolue. Et immédiatement, le cogito va impliquer le ergo sum. Le cogito implique l'existence. Vous voyez, il y a une espèce de c'est très curieux, le jugement d'existence va être résorbé dans le cogito. Il est résorbé, il est mesuré par le cogito. Le cogito s'empare de ce jugement d'existence et il le relativise. Il le résorbe en lui, il le prend en lui. Ergo sum. En réalité, c'est le cogito qui est premier et le ergo sum est second. Ça, c'est bien évident. Je pars du cogito, c'est beaucoup plus certain. Il y a une certitude beaucoup plus grande dans le cogito, ergo sum. Bon, alors Descartes, toujours en développant son point de vue, va dire comment rejoindre le réel sensible. Si je pars de la pensée, si je pars de l'idée, hein, le cogito implique des idées innées. Si je pars du cogito de la pensée, comment rejoindre le réel sensible, la réalité. La réalité existante, la réalité physique, la réalité qui est en devenir, la réalité qui s'impose à moi, comment d'univers dans lequel je suis. Comment le rejoindre? Le rejoindre avec certitude. C'est ça qui l'importe. C'est le rejoindre avec certitude pour dire il existe. Il y a un monde. Et ce monde, je le connais. Comment le rejoindre avec certitude? Je regarde dans la réalité physique ce qui est mesurable. Puisque seul le mesurable est certain. Seules les connaissances qui sont en dépendance des mathématiques comme la physique, ont une certitude. C'est le lien de la certitude. Alors, ce qui est mesurable, qu'est-ce qui est mesurable? La seule chose qui est mesurable, c'est les sensibles propres. Les sensibles propres ne sont pas mesurables. Alors, je reviens ici à la distinction des sensibles propres. Ça, Descartes le dit textuellement. Donc, la question des sensibles propres et des sensibles communs est présente dans la réflexion de Descartes, parce que c'est une donnée. Descartes est proche de la scolastique, il est proche de Rocard, il est proche de ce qui est avant Rocard. Alors, il dit seul qui est mesurable. Alors, je regarde. Les sensibles communs, nous l'avions dit, c'est ce qui est connaissable par plusieurs sens et qui conditionne les sensibles propres. Et parce qu'ils conditionnent les sensibles propres, ils impliquent la quantité, la grandeur, le nombre, la figure, le mouvement, le repos. C'est mesurable. C'est pour la quantité. Qu'est-ce qui est mesurable? C'est la quantité. Or, dans les sensibles propres, dans les sensibles communs, il y a la quantité. Et donc, l'avantage énorme des sensibles communs, c'est d'impliquer la quantité, donc ils sont mesurables. S'ils sont mesurables, je peux donc les introduire dans une connaissance certaine. Et seule la connaissance certaine est objective. Et je mesure l'objectivité par la certitude. Les sensibles propres, c'est purement subjectif.
puisque c'est pas mesurable. Vous dites c'est chaud, c'est simplement parce que vous avez froid. Mettez quelqu'un qui a très très chaud et qui touchera la même chose, il dira non, c'est tout à fait bien, c'est vrai. Il y a des tons différents comme ça. Et il y en a qui sentent plus ou moins vite la chaleur. Alors on dira donc c'est purement subjectif. La couleur, la lumière, c'est purement subjectif. Je ne peux pas le mesurer. Les sensibles propres, c'est-à-dire les qualités des sensibles propres, c'est quelque chose d'indivisible. Pas la quantité, c'est un autre intérêt. Et chaque sens saisit un sensible propre. Donc, les sensibles propres sont en dehors de la mesure, par le fait même, ils sont purement subjectifs. Ah, ils existent peut-être, mais c'est purement subjectif. Ça m'intéresse pas, je ne peux pas les saisir. C'est en dehors de la certitude. Oui, alors, je reviens à Occam pour montrer que la position de Occam est déjà une mise entre parenthèses des sensibles propres. Sans qu'il le dise. Mais du fait même qu'il a transformé le jugement d'existence en disant il y a une réalité, il y a une réalité qui s'impose à moi, il y a un mur. En réalité, la réalité, c'est un mur. On frappe dessus, mais je ne connais pas. Mais c'est le mur. L'expression du mur, le symbolisme du mur est quelque chose de très très fort. Parce que ça nous fait prisonnier, hein, de n'être pas plus loin. On est en face d'un mur. Les rêves, vous savez, les rêves, les cauchemars, on est en face d'un mur. Je ne peux pas regarder dessus. Bon, on voudrait bien regarder dessus, mais on ne peut pas. On n'est pas doué de cette manière-là. Alors le mur, c'est quelque chose qui nous arrête. La réalité existante, c'est comme un mur qui se dresse devant nous. Je ne connais pas. On ne peut pas la faire. Simplement, voir, elle existe. Il y a cette réalité. Donc, cette réalité, je la connais par les sensations. S'il y avait les sensibles propres, il y aurait au moins, parce que les sensibles propres, étant donné l'aspect de leur existence qualitative et individuelle, les sensibles propres, au moins, me mettent un contact direct par la sensation avec la réalité. Et donc, montre que ce n'est pas seulement quelque chose que j'affirme, mais il y a quand même un contact, une connaissance. Alors vous allez me dire, mais c'est purement sensible, c'est purement la sensation. C'est vrai, mais c'est une sensation qualitative, et c'est une sensation qui implique quelque chose qui me permet d'affirmer que cette qualité, quand même je la connais. Et donc, vous voyez, dans le sensible propre, il y a comme un lien qui ouvre à l'affirmation « il est, ceci est ». Ce n'est pas la même chose, c'est sûr, c'est un moment. C'est pour ça que je dis que les sensibles propres sauvegardent le jugement d'existence. Ce n'est pas le jugement d'existence, mais sauvegardent. C'est quand j'oublie les sensibles propres pour ne regarder que les sensibles communs qui sont mesurables, que très vite, j'en arrive uniquement à l'affirmation qu'il y a une réalité existante. Vous voyez, c'est l'importance de la distinction des sensibles propres et des sensibles communs. Alors, cette distinction des sensibles propres et des sensibles communs, elle est très simple. Il faut soi-même essayer de la découvrir. Vraiment. Et elle est ce fait que les sensibles propres sont propres à chaque sens. Et les sensibles communs sont communs à différents sens. Et c'est le même de la quantité. Et alors, ce que j'ai ajouté, c'est qu'avec l'imagination, l'image que nous formons en nous, l'image est en premier lieu formée par les sensibles communs. Et que les sensibles propres viennent s'ajouter après. Tandis qu'au contraire, dans la réalité, les sensibles propres, en premier lieu, et les sensibles communs conditionnent les sensations. Donc il y a l'ordre inverse. Ça, c'est aussi très important pour les psychologues. Parce que ça a beaucoup de conséquences. Bon, je m'arrête. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que nous avions dit la dernière fois? Nous étions arrivés à l'universel. Alors, l'universel, c'est pas un mur, mais c'est quelque chose que nous portons en nous. Alors, on va essayer d'entrer un peu dans cette philosophie universelle. C'est pas commode, mais c'est intéressant parce que c'est le premier être de raison qui est en l'universel. Alors là, vous avez tous expérience. Hein. Réfléchissez à tout simplement quand vous dites espèce d'animal, hein. Quand vous dites animal, quand vous dites chat, quand vous dites chien, quand vous dites n'importe quoi. Toujours, tout votre langage est universel. Mais vous l'employez, vous l'utilisez sans s'apercevoir qu'il est universel. C'est comme quand on descend l'escalier, et quand on commence à faire attention qu'on descend l'escalier, ça devient très dangereux. Et ben, alors il y a un petit quelque chose comme ça. C'est que le jour où vous commencez à comprendre que votre langage est universel, ça devient très dangereux. Parce que vous dites, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis. Alors on ne peut plus répéter. Chaque fois que vous prononcez un mot, vous arrêtez en disant, mais oui, je suis en face d'un universel, quelle est l'impression de cet universel, ça devient très très dangereux. Alors il faut essayer de faire cet exercice que nous faisons maintenant, parce que c'est un exercice philosophique de réflexion sur ce premier être de raison qui apparaît. Avec le concept, vous vous souvenez, la dernière fois nous avions essayé de voir la naissance du concept, la naissance du verbe intérieur, la naissance de cette idée qui est en nous et qui provient de l'abstraction, donc qui est toujours liée à une image, mais qui dépasse l'image. Avec le concept, je suis en face du problème de la signification. Avec l'image, je suis en face du problème de la représentation. Bon, je sais bien là-dessus. Représentation, signification. Le concept, c'est le problème de la signification. Le concept, du fait même qu'il implique une abstraction, le passage de l'image au concept, implique une abstraction. Implique donc il y a des éléments que je laisse de côté et des éléments, au contraire, que je saisis. L'intelligence fait là un discernement. Il y a un discernement que l'intelligence fait. L'intelligence, à l'égard de l'image, va saisir son bien et laisser tomber ce qui n'est pas son bien. Et son bien, c'est justement de saisir ce qui est intelligible. Le bien de l'intelligence est l'intelligibilité. Et donc elle va laisser tomber ce qui est d'ordre sensible, les éléments sensibles liés à l'image dans sa représentation, dans son aspect quantitatif, elle laisse tomber. C'est le passage donc du visible à l'invisible. Important de bien saisir ça. La signification toujours du côté de l'invisible. La représentation du côté du visible. C'est facile à comprendre. Et c'est facile à comprendre comment le visible implique une quantité d'éléments sensibles, puisque c'est visible. Donc d'éléments sensibles que j'abandonne pour saisir la signification. Et c'est là où je comprends que quand l'intelligence conçoit quelque chose à partir de l'image, elle conçoit quelque chose qui est dans la réalité. L'image représente cette réalité. Et l'intelligence veut saisir cette réalité, savoir ce qu'elle est. Et donc, elle saisit ce qu'on va dire. Alors, le mot barbare, je suis obligé de vous le dire, hein, il y a de temps en temps des mots barbares. Un mot qu'Aristote a inventé et qui a fait fortune, d'accord ? Et qui existe encore, c'est ça qui est très très curieux. Ça existe encore. Aristote a inventé à ce moment-là pour faire comprendre le bien d'intelligence, ce que l'intelligence saisissait dans la réalité et ce qu'elle abandonnait. Saisir ce que l'intelligence saisit dans la réalité et qui donne la signification qu'on sait. C'est le T-I-L-L. Vous allez arriver petit à petit à savoir ça par cœur. Hein. Le T-I-L-L, ceux qui savent le grec, voient que là, c'est un mot barbare. Hein. Mettez ça comme ça aujourd'hui, ça fait mieux. Non, on voit beaucoup mieux ce que c'est. Enfin, le T-I-L-L. Alors, j'essaie de comprendre. Puisque c'est un mot qu'Aristote a inventé, qui n'existait pas avant. On a traduit ça en latin, quoi, le latin a calqué, quoi, puis, erat, esse. Comme c'était un peu long, il y a des mots comme ça dans les familles, on donne des petits mots, des petits mots, des petits mots, temps. On va réduire. Alors on va à partir du poids du cuivera tessé dire cuivitas. Et le français a calqué en disant cuivité. Alors cuivité, c'est tout simplement le toti et les âmes qu'Aristote a inventé. Vous voyez la petite histoire, hein, c'est très amusant. Et vous voyez le mot cuivité, ça fait partie de cuivité, vous direz cuivité ou essence. Les gens ne savent pas du tout ce qu'ils veulent dire. On ne sait plus, quoi. Vous avez complètement quitté l'autotuit, vous ne savez plus du tout pour répéter ce mot-là, cuivité. Alors vous voyez ce que ça représente, c'est que l'intelligence, dans le fait d'exister, le to eima, le fait d'exister, saisit le tiers, ce qui demeure. Ça, c'est ce qui demeure. Au-delà des accidents, au-delà du mouvement, l'intelligence saisit l'intelligible. L'intelligible, c'est ce qui est au-delà du venir, au-delà de la génésis grecque, au-delà du venir, au-delà de. De la corruption, vous saisissez l'élément intelligible, le tiers, c'est ça, le tiers, l'élément intelligible, ce qui de fait demeure, ce qui est capable d'être défini. Le totienema, c'est ce que nous définissons. Le fameux problème de Socrate. Socrate qui cherche la définition. Parce que la définition nous met en face de quelque chose qui est au-delà du devenir. Quand je définis un homme, la définition, elle n'est pas dans le devenir. L'homme particulier, l'homme singulier, il est dans le devenir. Il va périr. Pas l'homme. Du fait même qu'il a existé, il demeure indéfiniment. L'essence, c'est ça l'essence. Une certaine signification de sens, c'est la unité, c'est l'intelligibilité profonde de la réalité. C'est ça que l'intelligence cherche à connaître. C'est très curieux, une espèce d'appétit de l'intelligence, l'appétit naturel de l'intelligence, de saisir dans la réalité le toti eima, de saisir dans la réalité son intelligibilité profonde, son intelligibilité première, ce qui permet de définir cette chose. Cette chose se définit par cette intelligibilité première. Alors, une fois que j'ai saisi cette intelligibilité première, moi je sais ce que ça veut dire. Oui, la signification. Et le concept, c'est assimiler, c'est bien, assimiler dans ma vie intellectuelle cette intelligibilité fondamentale de la réalité. Alors on dira essence, on dira aussi de temps en temps nature. Je le dis parce que ça se dit de temps en temps. J'aime pas beaucoup dire ça. J'aime mieux d'être fluidité. Si on a inventé un mot, c'est fait exprès. Parce que si je mets cuidité, je vois bien que ce n'est pas la réalité, c'est ce qu'il y a d'intelligible dans la réalité. C'est ce dont mon intelligence saisit la réalité. Donc ce n'est pas la réalité. La réalité tout court, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de singulier. Mon intelligence abstrait de toute une donnée sensible, d'une quantité d'éléments sensibles, elle abstrait ce qu'elle est capable de saisir. Ce qu'elle est capable d'assimiler. Dès qu'il y a assimilation, il y a rejet. Toujours. Un vivant, vous savez bien, il assimile certains éléments, il rejette d'autres. Et le jour où il ne rejette plus rien, on sait très bien ce que ça fait. L'intoxication, c'est de plus discerner ce qu'on peut assimiler, de ce qu'on ne peut pas discerner, de ce qu'on ne peut pas assimiler. Quand on refuse l'abstraction, on veut tout assimiler, et on tombe dans l'intuition. C'est l'intuition. Parce que l'intuition refuse l'abstraction. Alors on veut tout assimiler, c'est l'assimilation du poids. On veut tout assimiler, le petit lapin vivant, tant que possible, parce que quand il est mort, ça ne l'intéresse plus. Tandis que quand il est vivant, il assimile. Et il veut l'assimiler totalement. Et il assimile pour que vraiment ce soit son bien. Alors l'intelligence assimile en jetant les éléments sensibles et assimile uniquement le tout et l'éclat. Voilà la signification du concept. Ce concept se donne à voir sous un mode universel. Alors nous allons voir ça après le petit repos.